Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est David Gosse du Cercle des Rédacteurs, le seul podcasteur qui fait quinch quinch quand il marche. Ouais. Va falloir vous y faire, vous allez attendre ça tout du long, parce que c'est comme ça, des fois dans la vie d'un homme, il y a une paire de pompes, on l'aime bien, mais elle fait du bruit. Voilà. Bon, je vais pas vous embêter plus que ça. Bon, je vois en ce moment que il y a une réflexion assez forte qui se fait autour du SEO et de la génération de texte avec ChatGPT. Et je vois ça parce que ça arrive même dans des gros journaux, quoi, qui citent bizarrement des gens de notre petit univers comme des points de référence. Donc il y a un énorme enjeu quand même. Les gens veulent savoir s'ils vont être punis ou pas d'utiliser ChatGPT. Et je crois que, sans trop m'avancer, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de rédacteurs et de rédactrices qui s'entraînent aujourd'hui avec ChatGPT, parce que, mine de rien, ChatGPT, c'est quand même une sacrée avancée technologique pour notre métier. Hein. Alors, il y a des gens qui ont commencé à supposer, à juste titre, est-ce que ChatGPT va nous remplacer ? Et puis, les gens sont arrivés à la même conclusion que moi, c'est-à-dire non. ChatGPT va pas nous remplacer parce qu'il faut quelqu'un comme nous pour le faire tourner. Alors, il y a une phrase que j'aimais bien qui était ChatGPT va pas te remplacer. C'est le gars qui maîtrise ChatGPT qui va te remplacer. Et c'est pas très. Tu vois, c'est genre ça va. Non, en fait, c'est le gars derrière. Oh merde. Donc, j'aime bien cette idée-là parce qu'elle est stimulante. C'est-à-dire, ça peut être vous. Et c'est pour ça que j'ai écrit la formation. Sur le rédacteur web augmenté que je pousse plus forcément beaucoup en ce moment parce que je passe un peu à d'autres choses. J'ai plein d'autres trucs à faire, mais en tout cas elle est faite, elle est livrée, et puis les membres du cercle commencent déjà à travailler dessus. Elle est accessible à tous les membres du cercle, comme tous les contenus que nous faisons pour nos formations. Elle fera sans doute l'objet dans quelques temps, je ne sais pas trop, quelques mois peut-être, elle fera l'objet d'une formation à part que les gens pourront faire pour vraiment apprendre les techniques ultra secrètes de ChatGPT. Mais je ne sais pas s'il y a tant de choses que ça à défendre sur ChatGPT. Parce que c'est un truc extraordinaire, mais qui n'a pas vraiment besoin d'un mode d'emploi. En fait, le ChatGPT fonctionne en faisant ce qu'on lui dit. Voilà. Et le problème, c'est ça. C'est que le vrai problème des utilisateurs du ChatGPT, c'est qu'ils ne savent pas quoi lui demander. Ils savent pas. Oh zut, encore un homme avec un gros chien. Faudrait qu'on aille dans des forêts encore plus obscures pour être tranquille. Bref, espérons que tout se passe bien. Et c'est un vrai problème, en fait. Les rédacteurs, ils en demandent pas assez à ChatGPT. Ils lui demandent gentiment, ouais, est-ce que tu peux écrire un article de blog sur ce sujet-là ? Et puis ChatGPT produit un truc, et les gens disent, ouais, c'est nul. Moi, je me souviens, j'avais dit, ouais, ça vaut 12 sur 20. Mais après, j'ai compris mon erreur à moi. C'est... Est-ce que tu peux écrire un article de blog si je te donne tous les critères professionnels autour de ça ? Une seconde. Oli, stop ! Ici tout de suite. Dépêche-toi, là. Allez, encore. Pas à bouger. Oli, assis. Pas à bouger. Bonjour.
Bonjour.
Pas à bouger. Pas à bouger.
Il t'a bien fait.
Regarde, lui, il est gentil.
Allez, pardon.
Regarde.
C'est bien, mon chien. Allez. Ok, ça fait peur. Bon. J'espère que vous m'écoutiez avec un casque. Voilà, c'est ce qu'on vit assez régulièrement. Bref, ça, c'est un mec, la dernière fois que j'ai croisé, il m'a donné des leçons d'éducation. Enfin bref, Oli est restée très sagement assise, même quand l'autre chien a brillé. Petite merveille. continuons un peu cette discussion. J'espère que ça va, le cœur s'en remet, tout le monde va bien. Très bien. Donc, ChatGPT est le reflet réel de non seulement des compétences de la personne qui l'utilise, mais surtout de sa capacité à expliquer ce qu'il veut. Alors moi, je mets en place des méthodes pour faire du prompt engineering spécial rédaction web, que je vous ai déjà donné plein de fois, répondre à qui parle, à qui, de quoi, comment, pourquoi, poser un cadre. Mais rien que cette chose-là, je viens de donner un cours magistral de 2 heures à mes élèves aujourd'hui de la formation rédacteur pro sur qui parle, à qui, de quoi, comment, pourquoi. Mais même là, je me rends compte du degré de complexité. C'est pas anodin. Qui parle, par exemple, c'est quelles sont les valeurs qu'incarne la marque, quelle est sa vision, quels sont les obstacles qu'elle voit dans le monde pour le fait de faire advenir sa vision, quelle est la mission qu'elle se fixe et comment est-ce qu'elle se définit par rapport aux autres, quelle est sa spécificité. C'est quand même, c'est pas anodin le qui parle. Alors vous imaginez, ils sont tous comme ça, hein. Donc, une fois que vous avez mis ça en place, que ChatGPT peut faire aussi, si jamais vous savez comment le questionner et comment aller chercher ces informations-là, si vous savez quoi regarder, comment les identifier, ça va. Et une fois que vous avez tous ces éléments-là, quand vous lui demandez de faire le texte, vous avez encore ajusté le style, le ton, la richesse lexicale, vous avez défini la hiérarchie d'informations, vous avez expliqué à ChatGPT où se placer le texte sur le site, à quel endroit du tunnel de vente. Imaginez quand même tous les éléments. Et vraiment, je vous le dis, que ce soit GPT-3 ou GPT-4, quand vous lui donnez ça, il écrit mieux que vous. Quand vous lui donnez tout ça, il écrit bien mieux que vous. Et voire même, on rajoute l'élément essentiel qui est vous le documentez vous-même. Vous lui donnez de quoi faire sa documentation. Et donc là, ce qui arrive à la fin est top. Alors, c'est une vraie machine parce que, mine de rien, dans le même temps de production, c'est-à-dire 1 heure à peu près pour faire un texte de 500-600 mots, on va dire, avec la documentation, ben vous arrivez à faire toujours le même texte de 500-600 mots, mais d'une qualité et d'un cadre de communication incroyablement supérieur et maîtrisé par rapport à avant. Donc pour le coup, c'est des textes qui valent normalement plus cher, mais que vous produisez plus vite, donc vous pouvez en faire plus et vous fatiguez moins, etc. etc. Donc il y a un changement de modèle. Mais tout ça ne fonctionne, bien sûr, que si et seulement si Google ne vient pas nous déquiller juste derrière. Parce que si Google vient dire « Oui, on a identifié vos textes », ils sont bien, hein, mais bon, on est d'accord, ça c'est ChatGPT, donc on le dégage, allez hop. Vous n'avez plus rien à vendre à vos clients. Donc, la question du SEO n'est pas seulement majeure, elle est essentielle, elle est game changer. Alors pour celles et ceux qui me suivent sur LinkedIn, il y a quelques jours, j'ai posté une information assez essentielle concernant ça, sur laquelle on va revenir aujourd'hui. C'est-à-dire, Google est d'accord avec le fait qu'on utilise ChatGPT. Il est d'accord. Il dit même, le petit coquin, on n'identifie pas lors du scan des pages, lors du crawl, on n'identifie pas ChatGPT. On ne cherche pas à savoir si le texte a été rédigé ou non. Généré ou non. Ouais, je suis désolé, je sors de 4 heures ou 5 heures de cours divers et variés. Je vais peut-être avoir la voix qui déraille un peu parce que je suis un petit peu naze. Mais bon, donc, c'est important quand même ce que je suis en train de dire. Google dit qu'il ne scanne pas les textes et qu'il ne détermine pas algorithmiquement si le texte a été généré ou non par ChatGPT. Bon, déjà, il y a des experts SEO, genre Christian Méline, dans la presse. Je ne sais plus quel article c'est maintenant. Attendez, je regarde juste si je peux passer. Non, ok. Voilà, le journal du net. Voilà, j'ai retrouvé ma petite référence. Donc, c'est sorti dans le journal du net, un article de fond. Je crois qu'il est sorti aujourd'hui. En tout cas, je l'ai croisé sur LinkedIn tout à l'heure par quelqu'un qui disait « Ah, au secours, regardez cet article !» Alors, l'article en question, il faut payer ou s'inscrire ou se connecter, je sais pas quoi, pour pouvoir le lire en entier. Si vous utilisez le lecteur de votre navigateur préféré, vous avez tout le texte qui apparaît. Donc, voilà, vous pouvez le lire de cette manière-là. Mais je crois en plus que c'est pas la première fois que je le lis. En tout cas, ce qu'on lit, c'est que des spécialistes du SEO de tous bords, plus ou moins des grosses signatures, disent tous la même chose. En gros, hein, Google pourrait identifier tous les textes générés par ChatGPT. C'est globalement tout. Il y a aussi un certain enjeu. Mais en fait, Google a une réponse assez intelligente sur le sujet. Ils ont dit, nous, on n'identifie pas si les textes ont été générés ou non par ChatGPT. Ou par n'importe quel autre, parce qu'il n'y a pas que lui, il y a Brightsonic, il y a Jasper, il y en a d'autres. Hein. Et puis, il y a Palm qui arrive. Et compagnie. En fait, ce que Google dit, c'est « Nous, on va étudier le texte selon nos critères. » Alors, nos critères, ça va être la pauvreté du vocabulaire, ça va être la répétition dans les phrases, ça peut être l'absence de SEO, parce que Google génère un texte, mais est-ce que ce texte est orienté SEO, est-ce qu'il est bien conçu ? Ça peut être le champ lexical qui n'est pas suffisamment étendu, ça peut être le texte qui est trop court, ou qui est incohérent. Et ça, c'est des critères qui permettent à Google de dire que c'est du spam. Donc, quand c'est du spam, Google, il décrit ça. Il a créé un truc qui s'appelle le Quality Content. Un peu en réaction, un peu en prévision, en tout cas, il a dit, ah, on a un ensemble de facteurs, un ensemble de KPI qui permettent de déterminer la qualité générale d'un site en scannant toutes ses pages. Si la majorité des pages, ou si un nombre conséquent de pages est considéré spammy, selon les critères que je vous ai donnés juste avant, et ben on le déquille, boum, et tout le domaine coule. Donc c'est particulièrement violent. Mais encore une fois, quand j'ai entendu ça, moi j'ai entendu opportunité et j'ai dit à tous les rédacteurs web, contactez tous vos clients, demandez-leur s'ils ont fait des pages de merde et proposez-leur vite un tarif de réécriture. Ben ouais. Parce qu'il y a moyen de faire de la super réécriture à partir de là. Et de pouvoir avoir plein de contrats pour corriger les sites un peu spammy qui vont couler. Donc voilà, ça peut être très chouette de recontacter tous ces clients qui ont déjà confiance en nous pour dire hey, « vous avez vu ce truc-là ? Je vous envoie un article sur le Quality Content. Vous voulez pas qu'on check ?» Et voilà, après, on vous retrouverait à scanner tout le site manuellement ou avec des logiciels pour identifier les endroits spammy et puis faire un devis en disant ouais, on va réécrire tout ça, et comme ça vous ne serez pas condamné par la prochaine mise à jour de Google. Et c'est pas con. Donc pour le coup, Google nous dit ça. Il nous dit ok, tu utilises ChatGPT comme un bœuf, genre écris-moi un article sur ce sujet là. Le truc il est neutre, il sort, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, c'est plat, c'est pas croustillant comme dirait l'autre. C'est pas vraiment bien mis en scène, il n'y a pas de liste à puces, blablabla, ben à ce moment-là, spammy. Bon, on n'a pas trop de problèmes avec ce raisonnement-là, on est d'accord pour dire que quand vous lisez un texte, qu'il ait été généré ou non par ChatGPT, s'il est à chier, il est à chier. On est d'accord. Donc à partir de là, autant que Google le déquille. Google devient plus sympa quand il dit « Et pour les textes EEAT », qui sont donc en gros l'expertise, l'autorité, la notoriété, etc., qui sont des textes de référence, ben ceux-là, on s'en fout complètement qu'ils soient générés ou non par ChatGPT, du moment qu'ils sont bien. Alors là, on arrive sur un autre truc qui me fait délirer, c'est que vous, en tant que rédacteur web, vous ne savez pas comment on fait un texte EEAT, parce que vous n'avez probablement même pas lu un article sur le sujet, alors que c'est des textes que vous pourriez vendre 300 euros pièce parce qu'ils sont extrêmement recherchés. Mais voilà, posez-vous des questions. Hein. Si j'ai raison, posez-vous des questions. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous êtes rédacteur web ou vous n'êtes pas rédacteur web ? Choisissez. Bref, EEAT, extrêmement intéressant. Vous devriez avoir ça déjà sur vos articles de blog si jamais vous publiez sur un site WordPress ou autre. la proposition des textes EEAT, c'est majeur. Hein. Donc voilà, et Google, il vous dit, bah, ChatGPT peut faire un texte EEAT, ça ne nous dérange pas, parce que c'est vraiment un gros niveau d'expertise, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de détails, beaucoup de précision, un volume de mots assez important, des dessins, des graphismes, des vidéos en plus. Bref, c'est du lourd. Hein. Et il dit, bah là, il n'y a pas de problème si c'est ChatGPT. Alors après, ça pourrait, on pourrait se contenter de ça et de se dire, bon, bah, si je publie des trucs que ChatGPT a écrit, ça va. Mais je suis tombé il n'y a pas longtemps sur une personne sur LinkedIn. Je passe du temps sur LinkedIn, je m'en rends compte, qui expliquait qu'en fait, ChatGPT n'avait aucune personnalité, répétait des mots, utilisait des phrases totalement bateaux, des machins qu'on a vus mille fois. Ben, ouais, il suffit de dire à ChatGPT d'être autre chose qu'une espèce de truc neutre, standard, sans émotion. Il suffit de lui dire qu'il n'est pas standard, qu'il n'est pas neutre et qu'il a des émotions. Et puis d'un coup, c'est toutes ces expressions qui sont hyper répétitives disparaissent au profit d'un discours fleuri, émotionnel, beau, engagé. Ça dépend de ce que vous voulez. C'est vous le capitaine. Mais pour le coup, alors, il y a toujours une espèce de signature algorithmique un petit peu complexe qui fait qu'on arrive à déterminer que le texte a été généré parce qu'on refait un peu le chemin de la génération, en quelque sorte. Mais je ne sais pas à quel point c'est vrai. Mais il y avait, vous savez, tous ces logiciels-là qui sont apparus, les GPT-0 et compagnie, qui permettaient de déterminer si le texte que vous aviez avait été généré ou pas. Ben, ça peut être bien, mais en même temps, ben moi je pense qu'avec GPT-4 et avec vraiment des prompts robustes qui sont vraiment complets tels que j'en donne la recette, je pense que c'est impossible de savoir que c'est pas un humain qui a écrit. Et je pense que même les logiciels vous le disent que c'est un humain qui a écrit. Parce qu'on peut intégrer le chaos à l'intérieur. Et on fait pas ça en disant parce que ça c'était une rumeur qu'il y avait à un moment donné, écrit ce texte pour qu'il ne soit pas détecté par les détecteurs de texte. ChatGPT, sa mémoire s'arrête à 2021, il n'a aucune idée de ce qu'est un détecteur de texte. Donc il vous fait un truc parce que vous lui avez demandé, mais il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Donc merci à lui, il est gentil. Mais voilà, donc bien sûr que le texte se fait repérer juste derrière. Mais par contre, le texte, une fois, enfin le logiciel qui permet de déterminer si le texte a été généré ou non par ChatGPT, on peut essayer d'en avoir les critères et de jouer là-dessus. Et un des critères, c'est la dimension de chaos. C'est-à-dire que, en gros, ChatGPT est un logiciel, donc même s'il génère un peu aléatoirement des choses, il n'empêche qu'il y a quand même une espèce de signature de génération qu'on arrive à repérer. Donc on arrive à savoir que là, il y a un texte qui a été généré parce que ce mot-là, et 24 mots plus tard, le mot-là, sont liés. Voilà, donc ce genre de truc. Mais ça, on peut aussi le changer. On peut permettre à ChatGPT d'intégrer du chaos dans le propos. On peut aussi générer le chaos nous-mêmes. Donc, on peut réécrire une partie de ChatGPT, histoire de casser le chaos général, enfin, d'intégrer du chaos général. Les humains sont assez chaotiques. Et c'est difficile pour un humain d'être algorithmique dans sa production de contenu. Il écrit et puis après il change d'avis et puis il a 10 000 chemins en même temps dans la tête et il en choisit un puis il embraye sur un autre. Enfin bref, c'est ingérable. Mais pour le coup, il produit des choses qui ressemblent à des discours et ChatGPT, on n'est pas là. Par contre, ChatGPT, moi je l'aime bien dans une utilisation particulière qui est la correction réécriture. Vous écrivez un texte, genre mode brouillon, vous voyez ? Genre, j'écris au kilomètre, blablabla, c'est bon, j'ai fini d'écrire le truc, voire je l'ai dicté. Moi, j'en suis à un point où je dicte les textes. Et je dicte tout ce qui me vient en tête, et j'ordonne, et blabla, mets ça là, et oui, ce truc-là, faudra le mettre avant, et celui-là après, et celui-là comme ça, et ah, il y a ce truc-là, faut creuser là aussi, etc. Et quand ChatGPT génère le texte, il le génère avec mon chaos. C'est-à-dire que l'argumentaire, les points, les angles, les axes, le vocabulaire, c'est moi. Je lui ai donné l'intégralité des consignes constructivistes, quelque part, du texte, fondatrices du texte. Donc, il y a un certain chaos qui se génère. Autre solution, vous écrivez, je reviens un peu sur cette idée-là, mais vous écrivez tout le texte un peu au kilomètre, c'est-à-dire vite fait des titres, vite fait des sous-titres, vite fait, voilà. Les idées sont vite exprimées, vous mettez des tirets, des points, des voilà, sautez à la ligne, etc. Bon, vous donnez ça à ChatGPT avec un prompt un peu solide sur la réécriture, réécriture, correction, relecture, et il vous génère un texte qui est propre, bien fait, stylistiquement parfaitement aligné, avec les listes à puces et les trucs propres, bien organisés. Mais comme ça suit votre plan à vous, ben c'est chaotique. Dans le sens, il n'y a pas d'algorithmique sur la génération. Il réécrit, il récupère des vrais bouts de vos phrases, il corrige un mot, deux mots dedans, il rajoute une partie, parfois il rajoute un paragraphe, parfois il l'enlève, etc., etc. Et à la fin, vous avez quelque chose qui est particulièrement nickel et qui n'est pas détectable parce que bah, c'est aligné sur vous. Mais il faut un prompt bien bossé qui explique comment doivent être les titres, comment doivent être, bref, tous les éléments. Il faut le faire au moins une fois, ce prompt qui soit très qualitatif pour pouvoir générer à chaque fois quelque chose. À ce niveau-là, pour Google, c'est complètement OK. Ça pose aucun problème. Il ne les détecte pas, parce qu'il y a un mélange ADN de vous et de ChatGPT dans le texte. ChatGPT, il a dit ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, je change pas, ça c'est bon, ça je change. Ça je change pas, ça je change pas, ça non plus, ça je change. Et c'est comme ça qu'il va corriger. Moi j'ai un prompt comme ça qui permet de convertir toutes les expressions malgaches, françaises, hein, j'entends par là, mais qui sont un peu des signatures de Lille, pour les adapter au marché français. Ce qui fait que quand les rédacteurs web de Mada travaillent avec nous sur certains contrats, ben je passe tout leur texte là-dedans. Des fois, ChatGPT corrige rien du tout et il finit en me disant il n'y a pas eu besoin de correction. Et parfois, il me dit oui, il y a cette expression-là, je l'ai changée, celle-là, je l'ai changée, celle-là, je l'ai changée. Nickel. Et tout est absolument nickel. Et je pense que c'est vraiment indétectable qu'il y a eu ces 3-4 modifications dans le texte. Donc, on est dans un cas, là, à 22 minutes, où je vous dis très clairement, il y a des vraies possibilités d'utiliser ChatGPT, même si tous les SEO sont en train de dire « Ouais, faut se méfier, il y a... Google pourrait changer d'avis. » Et Google pourrait remettre le truc en place et puis rendre tout le monde perdant, tous ceux qui ont utilisé ça. J'ai pas envie de leur donner tort parce que c'est eux les spécialistes, mais je veux dire, ils sont très alarmistes. Ils recommandent d'utiliser des rédacteurs web, on les en remercie. Mais ils parlent bien de qualité. Donc dans l'idée, en tout cas, Google, je crois pas que Google en ait quoi que ce soit à faire de savoir si le texte que vous avez généré a été fait avec une intelligence artificielle ou non. Ce qui l'intéresse, c'est comme toujours, et je pense qu'ils ont paniqué au début parce qu'ils se sont dit on va se faire casser en deux avec le nombre de pages qui vont être générées par tout le monde, et parce que c'est de la page gratos, quoi. Et ChatGPT est gratuit, donc allez-y, goinfrez-vous, quoi. Il y a 2 ou 3 millions de requêtes par jour sur ChatGPT, donc ça fait autant de textes qui sortent, quoi. Et donc, ils ont eu très peur de ça, puis je pense qu'ils se sont calmés. Ils ont dit, wow, attendez, juste, on en discute. C'est quoi notre but dans la vie? Et il y a quelqu'un qui a dit, satisfaire les clients, les visiteurs, leur amener des vraies réponses. Il dit, d'accord, et ça, on a des bons algorithmes pour ça? Oui, très bon, on peut déterminer sans problème si une page est bonne ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre de comment elle a été écrite? C'est vrai. On n'en a pas grand-chose à foutre, puisqu'on est capable de savoir précisément si la page va servir ou non. Donc on n'a pas besoin d'empêcher les gens d'utiliser tel ou tel outil. Quelque part, est-ce que c'est à nous de dire quels sont les outils qui sont utilisés? Non, pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est du résultat, c'est de la qualité. Donc, ChatGPT, pourquoi pas, à la condition que ce qui sort soit pas pauvre en vocabulaire, soit pas spammy, soit pas incohérent, et fasse pas que les gens se barrent au bout de 30 secondes parce que le texte est illisible. Si les gens lisent le texte jusqu'au bout, le like, le commente, le partage, pourquoi est-ce que vous voudriez qu'on dise que c'est un mauvais texte? Je dis ça d'autant plus parce que Google est en train de sortir Palm 2, qui est, enfin, avec Palm et Bard, c'est juste énorme en termes de génération de contenu, ce qu'on va se prendre sur la gueule dès que ça sort. Petite parenthèse fun fact, il existe une version de Palm qui s'appelle Audio Palm. Voilà, alors ça pourrait se limiter à ça, mais juste, c'est tellement génial que j'ai envie de vous en parler. Audio Palm, alors la source que j'ai, c'est Tech Café, pardon. Tech Café, qui est donc un podcast qui sort deux fois par semaine et qui est brillantissime en termes de qualité d'information. Donc je vous le recommande si vous voulez vraiment avoir un aperçu de ce qui se passe à un très haut niveau d'expertise dans tous ces domaines. C'est vraiment passionnant et ils sont adorables et ils expliquent les choses très bien. Fin de la parenthèse. Mais donc Audio Palm, c'est Palm en version audio. On pourrait se dire d'accord, donc je parle à Palm, qui est une intelligence artificielle comme ChatGPT, il décrypte ce que je dis, il l'écrit, puis il l'interprète textuellement. Non. Audio Palm, c'est un truc, on lui parle et il répond. Il n'y a pas l'étape où il passe ça en texte. C'est automatisé. On lui parle, il répond. Il est capable de traduire dans toutes les langues, parce que c'est Palm. Il est capable de faire tous les travaux que vous voulez. Il est capable de vous conseiller, de vous organiser. Il est capable d'absolument tout. Mais il n'y a pas de phase écrite. Il parle. Voilà, juste j'avais envie de vous dire ça, parce que moi ça me fait rêver ce genre de technologie. Aujourd'hui j'ai bien compris que on n'allait pas pouvoir continuer indéfiniment à nier le fait que notre vie a changé. On en est au tout début, mais les prochaines applications pour téléphone qui contiendront des modèles de langage entiers spécialisés sur des domaines arrivent. Imaginez un modèle de langage entraîné sur le cinéma, mais tout le cinéma, absolument tout le cinéma. Et vous l'avez dans une application qui vous a coûté 5€. Et vous pouvez lui poser, discuter avec lui, et il vous répond, hein, et pas par écrit, par oral. À propos de tout le cinéma. Alors moi, je suis un très grand amateur de cinéma, donc si j'ai envie de dire, ouais, le film là, il paraît que c'est un remake, c'est quel film à l'origine? Ah bah c'est ce film là, c'est un truc japonais, obscur, des années 30, ça s'appelle comme ça, et c'est vachement bien, et ah ouais, et c'est quoi les avis? Bah les avis, globalement, c'est ça, ça, et c'est vraiment bien, c'est ci, c'est ça, d'accord? Et tu crois que t'aurais quelque chose de plus récent, du même réalisateur, histoire que je puisse me faire une soirée? Ah bah oui, tu pourrais regarder ce film là, et celui-là, etc. Donc, moi j'adorerais être dans un monde plus intelligent, qui répond plus facilement. Dernièrement, j'ai utilisé Bard. Désolé pour la digression, hein, je reviens tout de suite après sur le SEO. Mais j'ai utilisé Bard il n'y a pas longtemps parce que je voulais savoir un truc. Je voulais savoir la chose suivante. Les studios Ghibli ont sorti un film qui s'appelle Aya et la sorcière, ou Erwid and the Witch, qui est un roman à la base pour enfants. Et c'est le fils de Miyazaki qui s'est occupé de la réalisation. Et le film est... Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que je retrouve la patte de Miyazaki, mais elle est un peu discrète, parce qu'ils utilisent de la 3D pour faire ça, et ils s'en sortent plutôt très bien en 3D. C'est plutôt réussi, même si c'est pas du tout parfait, hein, et on est à des kilomètres de ce que Pixar saurait faire. Mais on est sur un petit truc qui essaye de bien faire avec des belles images, et puis ça revient un peu aux sources, on recommence à apprendre à dessiner. Donc c'est vraiment charmant. Mais le film finit d'une manière très abrupte. Il y a une porte qui s'ouvre, et fin. Et moi, ça me questionne énormément, parce que ça n'a aucun sens dans l'histoire que le film s'arrête comme ça. C'est presque le début d'une histoire encore plus intéressante. Donc je me suis dit, il y a une suite. Sauf que voilà, ils ont fait un flop commercial phénoménal. Mais vraiment phénoménal, hein. Ils se sont ravagés. Je crois qu'ils ont moins d'un million de bénéfices. Donc, ou d'un million d'entrées. Enfin bref, ça a saigné fort, fort, fort. Et c'était une commande Netflix, alors est-ce que ça continue ou pas? Donc, j'ai fait mes recherches et j'ai rien trouvé sur le fait qu'il existerait un Aya 2 en préparation. Donc j'ai cherché. Puis j'ai demandé à Bard, alors j'ai demandé à ChatGPT avec le modèle internet, mais il s'en sort pas, donc voilà. Mais j'ai demandé à Bard, qui est, alors pas Bard, pardon, Non, pas Bard. J'ai demandé à Bing, la version application téléphonique. Donc Bing qui utilise GPT-4 et qui est connecté au moteur de recherche Bing. Donc Bing chat et je lui dis, est-ce qu'il y a une suite? Et il me répond, je sais pas. Je cherchais sur internet, mais j'ai rien trouvé. Je dis, d'accord, mais tu veux bien rechercher de nouveau? Et il recherche, et puis il me dit, ah là, j'ai trouvé un truc. Et sur cette page-là, ils disent que ça sera peut-être 2023, peut-être 2024. Donc j'ouvre la page en question, une page obscure qui n'a aucune raison d'être informée sur le sujet, sachant que Allociné n'a pas les infos, que Wikipédia n'a pas les infos. Donc je regarde et puis je vois le gars qui dit « Ouais, c'est possible si jamais ils le font que ça serait pour 2023, 2024, mais on n'en sait pas plus. » Donc je suis pas plus avancé, mais je me suis quand même dit « Waouh, c'est vraiment une page sur tout l'Internet français qui a cette réponse-là, et c'est celle-là que ChatGPT, ou que Bing en tout cas, a réussi à me trouver. » Et là, on est sur un truc vraiment utile, mais vraiment utile. Donc, pourquoi pas, ça peut être bien. Voilà, donc c'est pour vous donner un peu un exemple d'usage. Oh, je crois qu'il commence à pleuvoir. Oh. On arrive au bout de la forêt où on doit faire la boucle et remonter dans l'autre sens. Oups. Oh là là. Oh là là, ça tombe. Bref, tant pis pour moi. Bien, donc, là où je voulais en venir, c'est que l'usage de ChatGPT pour la rédaction web, en fait, tout ce que je vous ai dit est vrai, c'est-à-dire, il y a très peu de chances, finalement, quelque part. Wow. Mais je me fais doucher. Ah, c'est froid, en plus. Bon, voilà, je retourne un petit peu dans la forêt. Ça va aller. Donc, il y a très peu de chances que les usages raisonné et extrêmement compétent d'un rédacteur web un peu de bon niveau, c'est-à-dire qui intègre du marketing, de la personnalisation, des objectifs, des enjeux, qui crée du chaos dans la personnalité, qui développe quelque chose d'un propos intéressant, qui le documente, qui le nourrisse. Je pense que c'est totalement indétectable pour la plupart des logiciels qui permettent de détecter les textes générés. Je pense que vraiment on est à l'abri. Deuxième chose, je pense que vraiment Google est sincère quand ils disent qu'ils surveillent la qualité et pas le fait que ce soit généré ou pas. Qu'ils se fichent un peu de comment les choses sont faites, mais qui par contre, ils vont sanctionner durement, comme ils l'ont fait jusque-là. Ils n'avaient quasiment rien besoin de changer dans l'histoire. Ils vont continuer à sanctionner ou favoriser les textes qui sont bons ou pas bons selon leurs critères. Je pense que d'ici un an, même pas, on va avoir des logiciels de LLM, donc de langage... Ah putain, la sauce, ah, je suis en t-shirt. Oh. Oh. Mais quelle aventure aujourd'hui. Ah, on passe dans des micro-clairières comme ça. Quel enfer! Ça va la pluie, c'est bon! On est au mois de juillet, s'il vous plaît! Ah la vache! Et la pauvre chienne qui est là aussi avec les yeux rabattus, les oreilles, pardon. Donc, allez, on y va! Tout pour le style! Donc, je pense que on pourrait générer ces textes. On pourrait les générer, on pourrait les vendre, on pourrait les livrer à nos clients. Parce qu'ils sont conformes. Ils sont conformes aux attentes de Google. Et ils sont conformes... Voilà. Oli, je pense qu'on va pas continuer. Il faut qu'on se trouve un abri, ma belle. Parce que là, on se prend la sauce. La vache. C'est la tempête. Oh, je suis déjà trempé. Bref. Ouais, Oli, j'ai pas d'idée. Essayons de finir pendant que je cherche un éventuel abri que je ne vois pas trop où on peut le trouver. Peut-être sous les arbres, mais Peut-être sous les arbres. Peut-être sous les arbres, ça me parle un peu, mais je vois pas plus. Enfin bref, je pense, pour finir, parce que là, pour, je vais vraiment pas pouvoir continuer, le téléphone est absolument trempé. On ne peut pas, pour l'instant, expliquer aux clients qui peuvent nous faire confiance. On a besoin d'attendre plus de résultats. Ah, tant pis. Allez, allez. Ok, alors, on est en fait le lendemain. Voilà. Il fait donc de nouveau magnifique, parce que le temps se fout de ma gueule. Et je voulais terminer ce podcast. J'ai enregistré une suite quelques minutes après, mais les micros étaient gorgés d'eau, et en fait, le son était complètement étouffé. J'ai enregistré une autre suite hier soir, mais... il y a eu un problème de connexion avec un micro qui n'était pas dans la même pièce. Donc le son était quasiment inaudible. On reprend tout, on fait les choses bien. Voilà. Bref, il fait chaud aujourd'hui. Ce temps se fout de moi. Ce que je voulais vous dire, ce qui est le plus important dans ce que je veux vous expliquer, ce qui est ma conclusion, c'est que la question du SEO pour la rédaction web... augmenter en utilisant donc un outil de génération de texte, c'est une question qui est aussi politique. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire ce que le rédacteur web doit protéger ses territoires ou ce genre de choses, on ne va pas parler de ça. Je vais juste vous dire que Google, aujourd'hui, donne des règles. Mais Google a les moyens de détecter des textes générés. Ils savent le faire. Il y a cet article du journal du net qui le rappelle encore une fois, selon les plus grands experts aujourd'hui en SEO, Google est compétent. Et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de passer par des experts. Quand on a un algorithme qui permet de classer tous les sites du monde, on sait détecter un texte algorithmique. Pardon. Pourquoi ? Parce que il y a cette génération... qui laisse une certaine empreinte générative qui fait qu'avec un outil suffisamment pointu, on arrive à savoir immédiatement. D'ailleurs, il y a plein d'outils déjà qui permettent de détecter si les textes ont été générés ou non. On peut sans doute les bousculer, mais à un moment donné, il se peut quand même qu'on soit repéré. Bon, aujourd'hui, Google dit pas de souci. Ça, c'est aujourd'hui. Imaginez, dans quelques temps... il n'y a pas deux ou trois générateurs de contenu, il y en a 350 parce qu'ils sont en cours de développement, il y en a en réalité 350 à peu près. De tout type, de toute forme, de toute spécialisation. On a appris par exemple que GPT-4, alors appris avec plein de guillemets parce que ce n'est pas encore confirmé, mais on a des éléments qui nous laissent penser que GPT-4, c'est 8 GPT-3 spécialisés. Qui sont interconnectés entre eux. C'est pas un grand modèle, c'est 8 petits ultra spécialisés. Si c'est le cas, ça veut dire que très rapidement, on va pouvoir faire d'autres GPT-4. Tous les concurrents vont pouvoir s'y mettre parce que la technique est finalement simple. Connecter 8 GPT-3 qui sont faciles à faire, entre guillemets faciles, qui sont des modèles à 200 milliards de paramètres. Bon. Pour le coup, on en connecte 8, et puis on a un truc qui est bestial comme GPT-4, capable de faire des trucs de maboule. Donc, on va en avoir de plus en plus, ça va se multiplier. À un moment donné, peut-être que Google va être en danger. Auquel cas, Google va mettre en place des restrictions. Et puis, comme ils le font souvent, des restrictions rétroactives. Et donc, pour le coup, tous ceux qui ont parié sur le texte génératif se retrouveront pénalisés automatiquement. Ce qui peut mener à des contrats pour nous pour réécrire tout humainement. Mais on peut aussi tenir ce raisonnement maintenant et dire, même si Google nous a donné son feu vert, nous allons quand même, pour nos clients, pour leur sécurité, pour la garantie de la qualité SEO, du classement à venir, de l'économie. Nous allons dire à nos clients, nos concurrents rédacteurs web utilisent les générateurs et font payer moins cher, mais il existe un risque, et risque que nous couvrons en écrivant tous les textes nous-mêmes. Voyez le raisonnement. Donc, si le client peut entendre qu'il faut investir un petit peu plus, 10, 15 euros peut-être, pour que les textes soient rédigés à la main, à l'ancienne, j'ai envie de dire, ben ça devient une plus-value. Alors que le reste du process, c'est-à-dire la documentation, la construction des argumentaires, le positionnement par rapport au pain point, l'identification des valeurs, le positionnement stratégique marketing, etc., tout ça, on peut utiliser et abuser même de ChatGPT. Mais l'écriture à la fin, ne prenons aucun risque jusqu'à nouvel ordre. C'est pas forcément chronophage, extrêmement chronophage. On peut éventuellement utiliser ChatGPT pour une relecture correction dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, hier pour moi, mais tout à l'heure, là, à l'instant pour vous. On peut utiliser ça parce qu'il va corriger que quelques mots. Et il va juste corriger les fautes. Et ça, c'est pas un problème. Mais je pense qu'il faut vraiment commencer à doser la présence de l'IA dans les résultats finaux livrés à des clients. Je pense que c'est une qualité qu'on devrait leur garantir sous l'idée qu'on protège leur SEO d'un éventuel revirement de situation si jamais Google se retrouve envahi de textes générés de plus ou moins bonne qualité et que, ben, Google l'a dit, hein, si c'est spammy, c'est non. Si c'est généré spécifiquement pour altérer ses classements, c'est non. Si c'est bien écrit, c'est oui. Bon, on pourrait les croire. On pourrait s'en méfier. C'est quelque part un choix politique. Est-ce que vous faites confiance à Google et vous en remettez à eux? Ou est-ce que vous jugez qu'ils ne pensent qu'à eux et peuvent changer d'avis et revenir en arrière, sachant que leur slogan « Don't be evil » qui a « evil », pardon, « Ne soyons pas démoniaques », qui, enfin, « Ne jamais être démoniaque », qui a été là depuis le début a disparu depuis un certain temps maintenant. Peut-être que c'était trop enfantin pour eux, peut-être que c'est aussi qu'ils ont envie de retrouver l'option. Je ne sais pas. En tout cas, je ne dis pas de mal des uns des autres. Ce que je veux juste vous dire, c'est vos clients apprécieront une garantie SEO que les textes ont été rédigés à la main, même si ChatGPT intervient sur le reste. Intéressez-vous également à comment les détecteurs arrivent à repérer qu'un texte a été généré par un algorithme. Il y a peut-être moyen de flirter avec une certaine limite. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je suis au sec, tout va bien. Le chien a été séché aussi. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.